Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Il y a les guerres indiennes, les armées en bleu nord-américaines, les résistants presque trop romanesques comme Sitting Bull ou Crazy Horse. Et puis, dans l'histoire des Amérindiens, des natifs américains, il y a Zitkalasha, celle qui a fondé le mouvement politique de défense de celles et de ceux qui n'ont jamais profité de l'invention des États-Unis, et c'est tout de suite, dans toute une vie.
Dakota du Sud, 27 août 1901. En grandissant, j'étais appelée par le nom de mon frère, Simons. Je l'ai porté longtemps jusqu'à ce que la femme de mon frère, furieuse contre moi parce que j'insistais pour avoir une éducation, a dit que j'avais déserté le foyer et que je pouvais bien aussi abandonner le nom de mon frère. Eh bien, vous pouvez deviner comme je me sentais étrange, loin des miens, sans abri, sans argent et même sans nom. Alors, j'ai choisi de me faire un nom. Et je suppose que j'ai fait celui de Zitkalasha.
Zitkalasha, l'envolée de l'oiseau rouge.
Si je me dis son nom, ça veut dire oiseau rouge, si je ne me trompe pas. Et ce qui est super fort, c'est qu'après le Red Power, il y a cette petite continuité, ne serait-ce qu'à travers son nom, qui est assez fort, quoi. Et puis le rouge, dans le symbole panindianiste, enfin de tous les peuples amérindiens aux États-Unis et Canada, c'est le cercle avec quatre couleurs, le rouge, le noir, le jaune et le blanc. Et donc c'est une couleur sacrée, enfin qui a une puissance très forte. Ne serait-ce que dans le nom, il y a cet oiseau rouge qui a essaimé jusqu'au Red Power, et le Red Power qui a initié... le mouvement pour les droits des peuples autochtones et son retentissement comme on le connaît maintenant, quoi.
Quand Gertrude Simons choisit son nom, Zitkalasha, qui signifie oiseau rouge, elle ne se doute pas que quelques décennies plus tard, un grand mouvement de contestation et de résistance autochtone, connu sous le nom de Red Power, verra le jour. Pourtant, elle a déjà conscience de la nécessité de la lutte et de l'autodétermination. Si elle est aujourd'hui assez méconnue, elle fut pourtant la première femme autochtone à écrire son autobiographie, la première à coécrire et composer un opéra, et la première à fonder son propre groupe de lobbying à Washington. Tout au long de sa vie, elle a fait entendre sa voix pour, dit-elle, donner aux premiers Américains la liberté de réfléchir, d'exercer leur jugement et de vivre pour eux-mêmes. Zitkalasha, dans ses écrits, se désigne comme indienne. Et aujourd'hui, on utilise plutôt le mot autochtone.
Donc, indienne, c'était vraiment le terme raciste, racialiste, qui était utilisé à l'origine. Et après, autochtone, c'était parce que c'est... les textes officiels, c'est indigenous. Mais en même temps, nous, la traduction d'indigenous en français, ce serait indigène. Et nous, avec tout le passé colonial lié au code de l'indigénat, à la guerre d'Algérie, enfin, ce serait pas non plus... Enfin, c'est très bizarre d'utiliser indigène. En fait, donc voilà, on se retrouve avec le terme autochtone, qui est le terme légal par lequel les peuples dont on parle se reconnaissent eux-mêmes pour avoir une forme de cohésion internationale et pour avoir plus de poids. Mais après, c'est vrai que aucun de ces termes-là n'est correct. L'idée, ce serait le jour où on pourrait appeler un autochtone par sa culture, parce que c'est un autochtone, en fait, ça veut tout et rien dire, alors qu'il y a plus de 567 peuples différents aux États-Unis, plus de 3000 au Canada. Et encore, ça, c'est que les. En tout cas, pour les États-Unis, c'est que les peuples qui sont officiellement reconnus par le gouvernement fédéral, en fait.
Toujours, quand ma mère se mettait en route vers la rivière, j'arrêtais de jouer pour courir avec elle. Elle était de taille moyenne. Souvent, elle était triste et silencieuse. Ses lèvres pleines et arquées étaient alors comprimées en lignes dures et amères, et des ombres se dessinaient sous ses yeux noirs. Alors, je me cramponnais à sa main et je suppliais pour savoir ce qui faisait couler les larmes.
Touched his hand, it burned like gold.
petite fille ne doit jamais parler de mes larmes. Et souriant à travers elle, elle me tapotait la tête et disait « Maintenant, montre-moi à quelle vitesse tu peux courir aujourd'hui. » Sur quoi je m'élançais aussi vite que possible, mes longs cheveux noirs flottant dans la brise. J'étais une petite fille sauvage de 7 ans, vêtue d'un jupon de daim marron, le pied léger, avec une paire de mocassins souples. J'étais aussi libre que le vent qui soufflait sur mes cheveux, et pas moins vive qu'un cerf bondissant. C'étaient les fiertés de ma mère, ma liberté sauvage et mon esprit débordant. Elle ne m'a pris aucune peur, sauf celle de m'imposer aux autres.
American Indian Story, impression d'une enfance indienne, Zitkala Shah, 1921.
Elle naît en plein dans les années 1870, quand l'État fédéral vraiment est en plein dans la mise en place des réserves. Et donc, il y a des conflits où de nombreux Amérindiens dans la région, dans tout ce qui est plaine, qui représente encore à cette époque des barrières. Et là, dans les années 1860-70, les colons veulent s'établir dans ces régions. Donc, on va délimiter des réserves. Certains refusent d'y être parqués, ce qui va mener à de nombreux conflits armés pendant cette période-là. Les résistances de l'époque, c'est vraiment refuser d'être assigné à des territoires. Et une fois qu'on est sur ces territoires, tout ce qui est économie, vie quotidienne, va être chamboulé. Voilà, il y a vraiment une phase de transition au moment où les individus sont établis sur ces réserves, d'adaptation, il n'y a plus de bisons, les bisons sont massacrés pendant cette période-là, donc une espèce de traumatisme collectif qui est dans un changement radical en fait de vie.
Le site au nord de la North Platte et à l'est du sommet de la montagne Bighorn devait être tenu et considéré comme un territoire indien non cédé. Et les États-Unis ont stipulé et accepté qu'aucune personne blanche ne sera autorisée à s'installer sur ou à occuper quelques parties de ce même territoire sans avoir obtenu préalablement le consentement des Indiens à passer par ce même territoire. Ces accords qui engageaient l'honneur de l'Amérique ont été foulés aux pieds lorsque la soif sauvage de l'or a poussé les Blancs à traverser les plaines jusqu'aux Black Hills, les collines noires, dans le pays des Sioux. Vaines étaient les paroles de Sitting Bull. C'est notre pays. Le grand esprit nous l'a donné. Des tireurs d'élite ont été payés pour tuer les troupeaux de bisons afin d'affamer ces Sioux épris de liberté et les réduire en esclavage, parce que l'homme blanc convoitait son pays. Par ces mesures drastiques, la plus grande partie de la nation Sioux a été placée sous le contrôle du gouvernement. Descendants de chefs renommés et de leaders ne craignant pas les épreuves, nous sommes nés dans la servitude. La porte du développement normal nous a été fermée. Si le système n'est pas modifié, nous périrons en tant que race.
The Sioux Claims, 1923.
En 1876, c'est une date qui est très importante aussi parce que un petit peu plus à l'ouest que la réserve Yankton, il y a ce qu'on appelait la Grande Réserve Sioux, qui avait été mise en place en 1868 par le second traité de Fort Laramie. Ce qui va se passer, c'est que dans les années début des années 1870, il y a de l'or qui est découvert dans les Black Hills, donc pas à Sapa, qui sont ces collines sacrées pour de nombreuses nations de la région, donc y compris les Lakota et Dakota. De l'or est découvert, donc beaucoup de colons commencent à s'installer sur la réserve de manière totalement illégale. 1876, il y a donc cette fameuse bataille entre l'armée américaine et différentes nations des plaines de la région, perdue par les États-Unis, et donc un an plus tard, on signe de manière plus ou moins contrainte ce qu'on a appelé the Black Hills Agreement. Donc c'est plus un traité, parce qu'en fait, l'État fédéral a mis fin de manière totalement unilatérale à la politique des traités en 1871. Cette évolution, elle témoigne bien en fait d'une évolution de paradigme, c'est-à-dire que jusqu'en 1871, les États-Unis signent des traités, donc des outils de droit normalement international, même si bon. Et après 1871, ce ne sont plus des traités, ce sont des sortes d'accords. L'accord de 1877 réduit fortement en fait la Grande Réserve Sioux.
«
Zit Kalasha est né le long du fleuve Missouri, dans la réserve de Youngton, près de la frontière sud de l'actuel Dakota du Sud. D'une mère Youngton Dakota nommée Ellen Riches, et d'un père français recensé sous le nom de Felker. Les Dakotas de Youngton faisaient partie de la grande nation Lakota. Bien qu'ils aient accepté de s'installer dans une petite réserve en 1858 et qu'ils aient rejeté tout conflit violent avec le gouvernement américain. La famille survit principalement grâce aux rations du gouvernement et à la recherche de racines et de plantes comestibles dans l'environnement naturel. L'existence devait être difficile sur le plan économique, mais en jugé par ses écrits ultérieurs, Zit Kalasha a eu une enfance très protégée et heureuse. Pour elle, Youngton était un paradis naturel de plaines vallonnées et de ciel bleu. Elle a grandi entourée d'une famille élargie, comprenant une tante et un cousin, et a reçu beaucoup d'attention de sa mère, qui lui a enseigné les arts traditionnels des femmes Dakota, comme le tissage et la préparation des aliments.
En fait, les réserves, ce sont des territoires, selon les traités, qui sont normalement réservés à l'usage des signataires, hein, des Amérindiens qui ont signé les traités. Sauf que très vite, ces réserves se transforment en espèces de camps, c'est-à-dire dont les individus ne peuvent pas sortir sans l'autorisation des agents du Bureau des Affaires indiennes. Et puis, elles se transforment aussi en espèces j'appellerais ça des sas de transition vers la, entre guillemets, civilisation. Les individus sont maintenant parqués sur des réserves, donc on peut développer tout un arsenal de politiques assimilationnistes. La propriété privée, donc avec la loi de morcellement des réserves en 1887, le Dawes Act, qui vont passer par l'éducation, qui devient obligatoire. Donc il va y avoir des internats qui sont développés en dehors des réserves, qui seront soit des internats publics, soit des internats privés, spécialement organisés pour les enfants amérindiens, donc le plus connu étant le pensionnat de Carlisle en Pennsylvanie, qui ouvre ses portes en 1879. Il va y avoir des écoles dans les réserves qui sont organisées aussi. Zit Kalasha, il me semble, va aller dans l'Indiana, dans une école Quaker, mais qui était aussi pour les enfants amérindiens. Et en fait, il y a toute cette génération d'enfants qui sont séparés de leur famille. C'est vraiment une période de transition et d'aliénation.
Le premier détournement du cours facile et naturel de ma vie s'est produit au début d'un printemps. C'était dans ma 8e année, au mois de mars, ai-je appris par la suite. À cet âge, je ne connaissais qu'une seule langue, et c'était la langue maternelle de ma mère. Certains de mes camarades de jeu m'ont dit que deux missionnaires au visage pâle étaient dans notre village. Ils appartenaient à cette classe d'hommes blancs qui portaient de grands chapeaux et avaient de grands cœurs, disaient-ils. Ma mère ne semblait pas vouloir que je parle d'eux. « Maman, mon amie Judéwine repart avec les missionnaires. Elle va dans un plus beau pays que le nôtre. Les visages pâles le lui ont dit. Elle répondit « Voilà, je savais que tu voulais y aller, car Judéwine t'a rempli les oreilles des mensonges des blancs. Ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. Leurs paroles sont douces, mais, mon enfant, leurs actes sont amers. Tu m'appelleras en pleurant, mais ils ne te consoleront même pas. Reste avec moi, ma petite. »
American Indian Story, impression d'une enfance indienne, Zit Kalasha, 1921.
In 1884,
en 1884, la mère de Zit Kalasha l'autorise à quitter Youngton avec un groupe de missionnaires Quakers. Il est certain que la jeune fille ne se doutait pas de ce qui l'attendait et qu'elle a immédiatement regretté sa décision en quittant la maison de sa mère. La jeune fille a voyagé pendant plusieurs jours en train jusqu'à l'Institut White, un voyage qui, en soi, a dû être une expérience traumatisante. Son arrivée fut également un choc, et elle décrit s'être endormie en pleurant la première nuit,
réconfortée seulement par une fille Dakota plus âgée. Les pensionnats indiens étaient généralement des lieux durs, où le corps enseignant, ethnocentrique, faisait de son mieux pour imposer la langue anglaise et les croyances chrétiennes aux élèves, et effacer tout vestige des cultures indiennes. Les cheveux étaient coupés. Les vêtements et les objets indiens étaient brûlés. Les noms indiens, tous profondément significatifs pour leurs porteurs, ont été échangés contre des noms comme Charles Dickens.
Le premier jour, au pays des pommes, fut d'un froid glacial. Nous fûmes placés dans une ligne de filles qui marchaient vers la salle à manger. C'étaient des indiennes, en chaussures rigides et robes près du corps. Les petites filles avaient des tabliers à manches et des cheveux coupés à ras. Alors que je marchais sans bruit dans mes mocassins souples, j'avais envie de m'affaler sur le sol, car ma couverture avait été retirée de mes épaules. En fin de matinée, mon ami Judéwin me fit une terrible mise en garde. Judéwin connaissait quelques mots d'anglais, et elle avait entendu la femme au visage pâle parler de couper nos longs et lourds cheveux. Chez nous, les cheveux courts étaient portés par les personnes en deuil et les cheveux rasés par les lâches. Nous avons discuté de notre sort quelques instants et lorsque Judéwin dit « Nous devons nous soumettre car ils sont forts », je me suis rebellée. Non, je ne me soumettrai pas. Je me battrai d'abord, ai-je répondu. En me tournant vers une porte ouverte, j'ai trouvé une grande pièce avec trois lits blancs. À quatre pattes, je me suis glissée sous le lit et me suis blottie dans le coin sombre. Des femmes et des jeunes filles sont entrées dans la pièce. Je retenais mon souffle. Je me souviens d'avoir été traînée dehors, bien que je résistais en donnant des coups de pied et en griffant sauvagement. Contre mon gré, je fus portée au rez-de-chaussée et attachée fermement à une chaise. Je criais en secouant la tête jusqu'à ce que je sente les lames froides des ciseaux contre mon cou et que je les entende ronger une de mes tresses épaisses. Alors je perdis mon esprit. Dans ma détresse, je gémissais et demandais ma mère, mais personne n'est venu me réconforter. À ce moment-là, je n'étais qu'un petit animal parmi tant d'autres, mené par un éleveur.
American Indian Story, les jours d'école d'une fille indienne. Zit Kalasha, 1921.
Finalement, c'est une éducation qui s'arrête, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop non plus d'ambition. Alors les filles, on va leur apprendre la couture, etc., etc., comment être de futures femmes qui vont bien s'occuper de leur foyer. Et puis les petits garçons, on va leur apprendre tout ce qui est travail manuel. Souvent, ce qui arrive aussi aux enfants, c'est que, notamment quand ils sont dans des écoles qui sont loin des réserves, le week-end, ou enfin, c'est des pensionnats, et puis de temps en temps, ils vont passer les vacances dans des familles non-indiennes. Ils sont envoyés en fait pour qu'il y ait vraiment cette immersion en fait dans la hors de leur culture tribale. Et je pense que ces écoles ont réellement oui participé à un effacement des cultures, c'est-à-dire vraiment des on va dire tribalisation. On s'en rend compte encore aujourd'hui, notamment dans tout ce qui a été perte progressive des langues, notamment. Après ces écoles, ceux dont on entend parler aujourd'hui, comme Zit Kalasha, c'est-à-dire ceux qui ont écrit leur histoire, c'est finalement une petite minorité d'enfants qui ont réussi à s'en sortir de ce système et qui ont ensuite écrit leur histoire, etc. C'est vraiment, une espèce d'élite, mais très minoritaire. La majorité des enfants, on se rend compte aujourd'hui avec toutes les histoires qui sortent actuellement sur les tombes qui sont découvertes dans plein de ces écoles, que beaucoup sont morts dans ces écoles. Zit Kalasha raconte aussi beaucoup de ces écoles étaient peu financées finalement. Elles étaient financées par l'État fédéral, mais les conditions dans les écoles étaient vraiment très, très compliquées. On peut même utiliser l'expression utilisée par Pratt, Henry Pratt, qui a ouvert le pensionnat de Carlisle. Ce pensionnat devait tuer l'Indien et sauver l'homme. Kill the Indian and save the man. Je pense que c'est une expression qui résume parfaitement en fait, le pourquoi de ces écoles.
Un jour, je perdis une chère camarade de classe. Je me rappelle bien comment elle se morfondait à mes côtés, jusqu'à ce qu'un matin, elle ne puisse plus lever la tête de son oreiller. Sur son lit de mort, j'ai pleuré. Dans les plis de la literie, j'ai vu les pages ouvertes de la Bible de l'homme blanc. La jeune indienne mourante parlait inintelligiblement de Jésus le Christ et du visage pâle qui rafraîchissait ses mains et pieds gonflés. Je devins amer et reprochais à la femme de négliger cruellement tous nos maux physiques. Je méprisais les crayons qui se déplaçaient automatiquement et l'unique cuillère à café qui distribuait, depuis une grande bouteille, le même remède à une rangée d'enfants indiens souffrant de diverses maladies. Je blâmais la femme travailleuse, bien intentionnée et ignorante, qui inculquait dans nos cœurs ses idées superstitieuses. La mélancolie de ces jours noirs a laissé une ombre si longue qu'elle obscurcit le chemin des années qui se sont écoulées depuis. Mais, aussi tempétueuse soit-elle en moi, elle s'exprime comme la voix basse d'un coquillage curieusement coloré, qui n'est destiné qu'aux oreilles qui se penche avec compassion pour l'entendre.
And upon graduating from White's, Zit Kalasha chose to stay in Indiana.
Après avoir obtenu son diplôme à White's, Zit Kalasha choisit de rester dans l'Indiana et de fréquenter une autre institution Quaker, le Earlham College, situé à Richmond.
In March of 1896, Zit Kalasha.
En mars 1896, Zit Kalasha représente Earlham lors d'un grand concours d'éloquence dans l'opéra anglais d'Indianapolis, qui comptait 1000 places. C'était du jamais vu pour une étudiante de première année.
Even more extraordinary, however, was the risk that she decided to take in Indianapolis.
Encore plus extraordinaire était le risque qu'elle a décidé de prendre à Indianapolis en présentant des arguments convaincants en faveur de l'égalité des Indiens. Peut-être pensait-elle qu'elle avait peu de chances de gagner. Ou peut-être avait-elle depuis longtemps des sentiments critiques qui ne demandaient qu'à être exprimés. Le résultat, un discours intitulé « Side by Side » peut être considéré comme son premier engagement en tant qu'activiste politique.
Le soir, alors que le grand public remplissait la salle, les étudiants commencèrent à se battre entre eux. Heureusement, je n'ai pas été témoin de ces querelles bruyantes avant le début du concours. Les insultes contre les Indiens qui maculaient les lèvres de nos adversaires brûlaient déjà comme une fièvre sèche dans ma poitrine.
Zit Kalasha a pris la parole en dernier ce soir-là, précédé de 5 orateurs masculins qui ont tous loué la vertu chrétienne, l'expansion américaine, la démocratie et le progrès. À la fin du cinquième discours, l'auditoire était épuisé et impatient. C'est alors que Zit Kalasha, une petite silhouette aux cheveux noirs, s'est levée pour prendre la parole à son tour.
Aujourd'hui, l'Indien est repoussé presque jusqu'à la mer la plus lointaine. Cette mer symbolise-t-elle sa mort? Est-ce la force qui fera le droit, et les forts seuls qui survivront? Ô amour de Dieu et de son Fils puissant, toi qui soulèves les opprimés et secours les nécessiteux, ton oreille s'est-elle alourdie au point de ne plus entendre son cri? Ton bras est-il si court qu'il ne peut pas sauver? Ne l'as-tu pas encore enveloppé de ton amour? Baisse ton regard avec compassion. Et avec ton pouvoir tout-puissant, fais bouger cette nation au secours de ma race.
Now, surprisingly, the audience, rather than
de manière surprenante, le public, plutôt que de protester, est resté assis en silence, absorbé par la façon dont Zit Kalasha renversait tous les récits nationaux sur lesquels l'Amérique s'est construite. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en une ovation tumultueuse. Un juge a ouvertement versé des larmes. Zit Kalasha s'est classé deuxième et aurait pu remporter la première place si un juge du Sud n'avait pas diminué sa note pour avoir critiqué l'esclavage.
Mais une fois les oraisons prononcées, une brûlure plus profonde m'attendait. Là, devant ce vaste océan d'yeux, quelques étudiants chahuteurs brandirent un grand drapeau blanc sur lequel était dessinée une jeune indienne désespérée. En dessous du dessin, ils avaient imprimé en grosses lettres noires des mots ridiculisant l'université qui était représentée par une femme indienne. Cette grossièreté pire que barbare me rendit amère. Pendant que nous attendions le verdict des juges, je jetai un regard féroce sur la foule des visages pâles. Voyant que le drapeau blanc flottait encore avec insolence dans les airs, je serrai les dents. Deux prix furent décernés ce soir-là, et l'un d'eux était le mien. L'esprit maléfique rit en moi lorsque le drapeau blanc est tombé hors de vue et que les mains qu'il avait enroulées se relâchèrent en signe de défaite. Quittant la foule aussi vite que possible, j'étais bientôt dans ma chambre. Seul, je ne riais plus de mon triomphe. Le petit goût de la victoire n'avait pas satisfait la faim dans mon cœur.
Elle va à l'université, l'université de Hirlam. Elle est assez brillante et c'est une trajectoire qui est peut-être peu commune parmi des enfants qui viennent de pensionnats, qui sont autochtones.
Non, c'est vraiment effectivement une minorité. Il va y avoir un réseau en fait qui se crée de ces... Et c'est dans ces réseaux-là que on va trouver les personnes qui ensuite vont former, par exemple, la société Society of American Indians, c'est en 1911, hein, si je crois. Mm. On retrouve beaucoup d'individus qui, comme Zitka Lacha, en fait, ont réussi, académiquement parlant. Ils vont être écrivains, médecins, juristes, etc., etc. Mais oui, c'est une minorité.
Il y a quelque chose d'étonnant aussi, c'est qu'elle devient elle-même professeure de musique à Carlisle, du coup.
Au tout début, en fait, de ces politiques assimilationnistes, la grosse majorité des fonctionnaires ne sont pas indiens. Mais petit à petit, il y a des enseignants, il y a des médecins, il y a certains vont aussi... Donc en fait, le bureau des affaires indiennes qui gère toutes ces politiques dans les différentes réserves va commencer à employer... En fait, des Amérindiens. À Carlisle, il y a d'autres enseignants amérindiens, il y a un médecin, même à un moment donné, qui va être. Donc, non, c'est pas si étonnant que ça, pour le coup. Et ces écoles participent aussi, étrangement, paradoxalement, à créer des liens entre ces individus, des solidarités intertribales, hein, pour le coup, parce que souvent, ça va être des gens qui viennent de nations autochtones différentes. Donc, des écoles qui ont détruits, qui ont assimilé, qui ont participé à un ethnocide, et certaines qui vont finalement aussi créer des liens, des solidarités au-delà des différences tribales et créer des intérêts communs en fait entre tous ces individus.
Après avoir démissionné de son poste de professeur de violon au pensionnat de Carlisle, Zitka Lacha, en proie à la dépression, se rend à Boston. Là-bas, elle se ferait un chemin au sein de la haute société et attire l'attention du rédacteur en chef du journal Atlantic Monthly qui lui propose de publier ses écrits. Elle saisit l'opportunité et rédige au début de l'année 1900 une série d'articles virulents sur ses premières années de vie dans la réserve, sur sa scolarité au pensionnat de White et à l'université de Hirlam. Les articles, intitulés « Impressions d'une enfance indienne »,« Les jours d'école d'une fille indienne » et « Une enseignante indienne parmi les Indiens », seront ensuite rassemblés et publiés en 1921 sous le titre de « American Indian Story ». Ce texte constitue un des premiers témoignages de la violence assimilationniste des pensionnats autochtones aux États-Unis.
Wanting to be recognized as Indian,
désireuse d'être reconnue comme indienne,
Gertrude Simmons a signé ses articles
Zitka Lacha,
meaning red bird in Lakota,
qui signifie oiseau rouge en Lakota.
A name that she gave herself, sometime in
un nom qu'elle s'est donné en 1898. Cette semi-autobiographie pour l'Atlantic Monthly était sans doute plus un acte politique que l'écriture d'une vie. En examinant sa propre entrée dans la civilisation blanche depuis sa maison de Yankton, les récits de Zitka Lasha offrent une critique de l'expansionnisme euro-américain, de l'assimilation dans les pensionnats soutenus par le gouvernement et des coûts qu'elle entraîne pour les communautés et les cultures indiennes. Elle a cherché à exposer les souffrances des enfants indiens, à affirmer la validité des cultures et des coutumes indiennes et à critiquer la civilisation blanche pour les mauvais traitements qu'elle inflige aux peuples autochtones. Dans cette série, elle raconte comment elle a perdu ses amis d'école à cause de la maladie, et comment la rééducation culturelle qu'elle a reçue l'a éloignée de sa mère et de sa tribu. Ces publications ont été une grande victoire pour Zitka Lasha.
Est-ce que il y a d'autres figures à l'époque de Zitka Lasha qui luttent aussi?
À l'époque, c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de femmes autochtones en lutte sur le terrain, même juridique ou en tout cas institutionnel, sur lequel elle a été, puisque elle est secrétaire de la Society of American Indians. Elle fonde avec son mari le National Council of American Indians. Mais donc du coup, c'est vrai que sur cette échelle-là, je vois pas trop d'équivalent. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles existaient pas, c'est ça qui est hyper compliqué en fait. Il y a des femmes autochtones photographes qui documentent la vie de leur communauté. Par exemple, Jenny Roscoe, qui est Cherokee, qui documente à la même période chronologique que Zitka Lasha, qui documente donc elle documente la vie de sa communauté, etc. Quand même, il y a une conscience de documenter ce qui se passe. Pour prendre le contrepoint de ce qui est en train de se faire, à savoir l'écriture de l'histoire sans elle, sans eux, enfin sans les peuples autochtones d'une façon générale, mais sans elle, c'est parce que l'histoire aussi, elle écrit sans ceux qui cumulent les strates de vulnérabilité, quoi. Au 19e siècle, on n'en connaît pas énormément des femmes qui luttent. Ah, c'est au 20e siècle, dans les années 1925, je crois. Il y a la première ballerine amérindienne, Maria Tolshieff, à New York.
Donc à un moment, elle fait partie de la Society of American Indians. C'est quoi cette association? Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Zitka Lasha?
Alors, la Society of American Indians, c'est la première organisation gérée par des Amérindiens. C'est une organisation qui est nationale et qui est panindienne. Elle est organisée en 1911 par des individus qui tous ont connu la transition. C'est-à-dire que souvent, c'est des individus qui sont nés dans des réserves et qui ensuite sont allés dans des écoles. Donc Zitka Lasha, qui a rejoint ce mouvement, s'intègre parfaitement finalement dans cette génération. Et donc, c'est une organisation qui... On parle de Red Progressives, hein, en parlant d'eux. Donc, ils vont à la fois militer pour l'intégration des individus amérindiens en tant que citoyens, parce qu'ils ne sont pas citoyens à cette époque-là. La grosse majorité des Amérindiens ne sont pas citoyens. Donc, ils vont lutter pour cette intégration, pour mettre en avant l'éducation des individus, etc., etc. Mais ils parlent aussi, dans cette société, de lutter pour les droits amérindiens.
C'est quoi le statut, donc, des personnes autochtones avant d'être citoyen à cette époque?
En fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, les institutions américaines ne traitaient pas directement avec les individus amérindiens. En fait, les Amérindiens appartenaient à leur nation. Et donc la plupart, d'ailleurs, n'étaient pas citoyens américains. Il n'était pas question qu'ils soient citoyens américains. Et puis, petit à petit, au moment où donc on bascule vers ces politiques d'assimilation, d'intégration, l'État fédéral va chercher à démanteler finalement ce statut collectif en intégrant les individus à la nation américaine. Mais avant d'être citoyens, ils ont encore ce statut un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à leur nation, ils sont membres tribaux, membres de leur nation. Et à la fin du 19e siècle, cette spécificité, on va dire, autochtone, elle est interprétée par l'État fédéral. C'est-à-dire, on va dire que finalement, cette existence particulière au sein de la nation américaine se traduit par une relation de tuteur à pupille. Donc les Amérindiens, fin 19e siècle, pour la plupart, sont des pupilles de l'État fédéral. Et il va s'agir petit à petit de les faire basculer depuis cet état de pupille vers la citoyenneté. D'ailleurs, dans beaucoup de réserves à l'époque, l'agent du Bureau des Affaires indiennes a des listes sur lesquelles il est indiqué son degré de sang indien, par exemple. À l'époque, l'idée, c'était que plus un individu avait de sang indien, moins, en fait, il était apte ou prêt à la citoyenneté. Il y avait aussi s'il était compétent ou non. His degree of competency, was it competent or not? À partir du moment où un individu était déclaré compétent, en fait, il pouvait sortir de ce statut de tutelle. On lui octroyait la citoyenneté américaine.
Je me souviens de ma mère. Je suis née dans un tipi. J'ai aimé cette vie. C'était beau. Plus beau que je ne peux vous le dire. Mais ma mère m'a dit, tu dois apprendre la langue de l'homme blanc pour que quand tu seras grande, tu puisses parler pour nous. J'ai dit, je le ferai. Cela n'a pas toujours été facile, mais j'ai dit, je vais faire de mon mieux. Maintenant, chacun d'entre nous peut faire cela. Bien sûr, il y a des choses qui découragent. Nous semblons ne pas avoir d'argent, pas d'amis, et nous n'avons pas de voix au Congrès. Comment allons-nous faire? Nous sommes ici comme les autres êtres humains, et il n'y a aucune raison pour que nous ayons peur de relever la tête. Tenons-nous droit, étudions les conditions, donnons des raisons. Et si nous échouons au premier essai, allons-nous abandonner? Non, nous essaierons à nouveau. Vous croyez au droit? Alors défendez-le. Si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Il est donc nécessaire que nous nous organisions, que nous agissions en tant que corps, que nous rassemblions nos idées et que nous choisissions les meilleurs. Nous devons soutenir cette organisation. Nous devons veiller à ce qu'elle se renforce.
Discours au congrès annuel de la Société des Indiens d'Amérique, 2 octobre 1919.
En 1924, il y a la citoyenneté, mais les gens ne peuvent pas forcément voter.
Non, c'est vrai que citoyenneté ne va pas de pair avec droit de vote. Parce qu'en fait, le droit de vote aux États-Unis est régi d'une part par la citoyenneté nationale, mais aussi par la résidence dans un État fédéré. Or, justement, le statut amérindien est tellement complexe que, à cette époque, certains États, je pense à l'Utah, Nouveau-Mexique, par exemple, partent du principe que les Amérindiens, normalement, qui résident dans des réserves, ne sont pas citoyens d'État. Donc, s'ils ne sont pas citoyens d'État, ils ne peuvent pas voter.
Et à partir de ça, Zid Kalacha va cofonder une autre organisation en réaction à ce droit.
Alors oui, c'est le National Council of American Indians, NCAI, à ne pas confondre à celui qui arrivera juste après, qui est donc cette fois-ci une organisation qui va être basée à Washington, qui est donc fondée par Zid Kalacha et son mari. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est finalement une organisation qui n'est plus juste des membres en tant qu'individus amérindiens qui vont constituer une organisation comme la Society of American Indians avant, mais c'est aussi une association qui a pour but de représenter, d'une certaine manière, les entités politiques collectives autochtones.
However, the council's motto was,
la devise du conseil était
help themselves in protecting their rights and properties.
Aider les Indiens à s'aider eux-mêmes, à protéger leurs droits et leurs propriétés.
Their official emblem,
son emblème officiel était un camp de tipis,
resting peacefully on the Dakota Plains,
reposant paisiblement sur les plaines vallonnées du Dakota, censé symboliser la fraternité universelle entre Indiens. La première action de Zid Kalacha, en tant que présidente du Conseil, a été d'envoyer une pétition au Congrès américain, dans laquelle elle a explicitement relié les objectifs de son organisation aux luttes de ses ancêtres.
She writes,
Il fut un temps où la protestation de notre race contre l'injustice s'exprimait par des cris de guerre qui s'élevaient de la forêt vierge. Non moins audible sera cette protestation qui résonnera dans les collines et les vallées de notre patrie. À ce moment-là, Zitkalasha se présentait publiquement comme la petite fille de Sitting Bull. Il ne s'agissait pas tant d'une revendication de lignée que d'une façon d'indiquer qu'elle poursuivait ce combat armé avec de nouvelles tactiques politiques dans de nouvelles circonstances. C'était aussi un bon moyen d'attirer la publicité lorsqu'elle donnait des conférences publiques. Malgré un manque de ressources, Zitkalasha et son mari ont parcouru. Rien qu'en 1926, 11 000 km dans l'Ouest, pour recueillir des informations sur les problèmes auxquels étaient confrontés les Indiens dans les réserves. Les rapports que Zitkalasha a ainsi compilés était ensuite présenté au Congrès. Le Conseil travaillait essentiellement à améliorer la protection juridique et culturelle des nations indiennes. L'organisation a formellement déclaré son opposition à des décennies de politique indienne fédérale et a mis en avant une idéologie ancrée dans l'organisation intertribale, la fierté raciale, une identité indienne collective, l'affirmation de droits et la détermination à obtenir la liberté et la reconnaissance. Nombre de ces éléments seront au cœur de l'American Indian Movement ou Red Power à la fin des années 1960 et dans les années 1970. On pourrait même considérer le Conseil national de Zitkalasha comme le précurseur de ces mouvements ultérieurs.
28 mai 1916. Je me lasse des dieux de pacotille, des faux adorateurs et de la servilité de l'Indien. Je suis agitée par la question suivante. Que dois-je enseigner? Par où dois-je commencer pour rendre à l'Indien de la réserve son indépendance native? Pendant que nous travaillons avec les nôtres sur les réserves, ne serait-il pas bon que nos membres associés établissent un plan pour la conférence où ils pourraient expliquer à leur public la nécessité de changer le système? Madame Brown de Denver a fait un grand bien cette année en donnant des discours sur le sujet de la justice pour les Indiens à l'Assemblée nationale. La troisième branche de notre activité est, bien sûr, de garder un œil sur le Congrès. Cet hiver, les pâturages des huttes ont été mis en danger par des efforts de législation égoïste. Le rapport de la Chambre montre qu'un projet de loi a été introduit pour prendre 1 000 $ des fonds huttes pour l'entretien d'un pont en acier à Myron. C'est injuste, car ce pont est sur une route nationale et ne devrait pas être facturé aux Indiens. Je n'ai pas de rapport du Sénat. Je ne sais donc pas si elle a été adoptée. Je crains que oui.
En même temps, j'ai l'impression qu'elle a aussi des tactiques, des stratégies assez presque contemporaines. Par exemple, en 1929, elle crée une newsletter qu'elle va distribuer dans les réserves où donc elle diffuse l'information. Donc, pour le coup, elle a aussi des stratégies qui
organisationnelles,
peuvent se rapprocher de...
Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, une personne charismatique amérindienne ou autre, enfin, ça pouvait pas marcher, enfin, une seule personne toute seule. Donc celle, ouais, elle le comprend très tôt, elle tend à ce qu'il y ait vraiment un socle. T'as l'impression que la lutte, ça lui a fait tout de suite penser, trouver des moyens pour s'organiser. Mais un peu là, je fais encore un saut dans le temps, mais c'était passionnant comment Facebook, les réseaux sociaux s'étaient utilisés pendant l'occupation à Standing Rock contre le Dakota Access Pipeline, quoi. Mais c'est aussi ouais, ce que faisaient les suffragettes. Enfin, c'est vraiment des mouvements de résistance qui du coup développent des outils, des moyens et...
Donc Zitka Lacha, elle a quand même vraiment bien compris à quel endroit se situe le pouvoir, à quel endroit elle a de la possibilité d'agir. Est-ce que ça préfigure un peu des fonctionnements qu'on verra après, dans les années 60-70?
Oui, je trouve qu'en relisant en fait ses écrits, j'ai trouvé qu'elle maîtrisait de manière assez impressionnante tout ce qui est de l'ordre du juridique, toutes les doctrines... totalement paradoxale parfois de ce qu'on appelle le droit fédéral indien. Elle a bien compris que beaucoup de choses se passent à Washington, mais pas que. Elle utilise effectivement donc l'outil juridique, l'outil journalistique. Elle maîtrise bien en fait les outils hein, en fait du militantisme moderne.
Ouais, par rapport à l'art, du coup, elle est écrivaine et elle est aussi musicienne. Et donc, à un moment, il y a quelque chose d'assez notable, c'est qu'elle écrit un opéra.
The Sundance, donc la Sundance, c'est une danse traditionnelle sioux, mais qui est réservée vraiment à l'origine, traditionnellement, à très très peu de monde. Et c'est la première femme amérindienne à écrire un opéra. Et elle voulait mettre en avant... les cultures, les traditions amérindiennes. Donc, c'est une histoire assez convenue, enfin, d'une femme amérindienne qui s'appelle Winona d'ailleurs. Et elle le fait avec donc un compositeur qui s'appelle Hanson. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a toute une analyse autour de la place qu'elle a eue quand ils ont déposé le copyright. Et bizarrement, encore une fois, elle a été invisibilisée puisque sur le petit billet de dépôt, y a pas son nom, quoi. Et il me semble que cet art comme outil politique, là, c'est quelque chose que nous, qui nous intéresse beaucoup, parce que nous, on a tendance, enfin, nous, quand je dis nous, c'est les Européens et plus largement les Occidentaux, à cloisonner un peu. Il y a l'art, et puis l'art, c'est toujours vu comme quelque chose de soit sacro-saint où on comprend pas, sacro-saint parce que c'est cher, parce que en fait nous on a une vision très marché de l'art élitiste, enfin qui biaise complètement notre rapport aux pratiques manuelles en fait déjà de base. Les artistes que j'avais pu interroger pour ma thèse, c'était je leur demandais toujours mais comment est-ce que dans ta langue il y a le mot art et en fait ça existe pas, mais pas parce que ça existe pas dans les pratiques, c'est parce qu'en fait ils m'avaient expliqué que l'art ça fait partie de la vie en fait, que c'est quelque chose rien que de fabriquer je sais pas une corbeille dans laquelle tu vas mettre tes fruits ou c'est déjà un savoir-faire. Et en plus chez ces peuples là où chaque motif va potentiellement avoir un sens, parce qu'il y a aussi des choses qui sont purement esthétiques, mais généralement il y a un sens qui imprègne chaque création. Donc c'est quelque chose qui n'est pas indépendant, qui n'est pas décloisonné. Donc je pense que résister, être en lutte, promouvoir ses droits et en même temps avoir des pratiques et créer des œuvres, etc., c'est quelque chose d'inhérent et de logique.
Enfin, elle a une position qui est assez ambivalente et on lui a reproché presque d'être trop blanche, quoi. Parce qu'à la fois, elle est hyper virulente contre les politiques assimilationnistes et à la fois, elle va mettre son propre fils dans une école, dans un pensionnat. Elle lutte pour la citoyenneté en disant que les Indiens se sont battus pendant la guerre, donc ils ont le droit d'être citoyens. C'est une position qui est un peu étonnante. Je ne sais pas si c'est une particularité des militants de cette époque. Ou...
Bah, c'est ce que Fanon définit, quoi. C'est le syndrome du colonisé. C'est à un moment, tu te dis, c'est quoi le... Enfin, aussi, je parle, c'est important de dire, en tant que femme blanche, c'est pas non plus... J'ai une place privilégiée, mais c'est le syndrome du colonisé. Qu'est-ce qui peut être le mieux pour moi et qu'est-ce qui peut permettre à mes enfants d'avoir un parcours le meilleur possible. Là, je vais faire un saut dans le temps, mais si tu parles à des familles amérindiennes maintenant, certaines vont te dire que ils parlaient pas leur langue chez eux, etc. Alors soit leurs aïeuls les connaissaient plus, soit c'est parce que c'était pas bien de parler la la langue traditionnelle, et il fallait justement, pour trouver du travail, pour un peu se fondre dans le moule, pour avoir le moins d'ennuis possible, bah, fallait parler anglais ou français pour les autochtones du Canada. Mais il y a ça aussi, donc ouais, elle a une posture assez ambivalente. Après, j'ai l'impression que au fil de l'histoire, quand tu prends toutes celles et ceux qui ont lutté et qui luttent actuellement pour la défense des droits des Amérindiens, etc., on leur reprochera toujours quelque chose. Donc soit d'être trop blanc, soit de ne pas l'être assez.
Zit Kalasha peut être considérée comme une figure contradictoire.
But when we look at her life and writings,
mais lorsque nous examinons sa vie et ses écrits, nous devons nous rappeler qu'elle opérait dans le cadre d'un discours très étroit. Le récit national américain de la destinée manifeste, centré sur le christianisme. Elle devait veiller à ne pas offenser ses auditeurs, tout en faisant valoir ses arguments. Il s'agissait d'un processus de négociation entre une personne colonisée et un empire plus vaste, entre les impuissants et les puissants. La vie indienne d'antan ayant clairement disparu, Zit Kalasha estimait que les Indiens devaient s'adapter, car leurs talents pouvaient les mener loin dans la société euro-américaine. Mais les Indiens, en s'assimilant, devaient conserver leur héritage distinct et en être fiers. L'éducation des Blancs ne devait pas être rejetée, par exemple, mais modifiée pour mieux convenir aux enfants autochtones. En raison de certaines contradictions dans son œuvre, Zit Kalasha a été étiquetée par certains comme un fantôme culturel qui vivait une existence liminale ou schizophrène. Trop influencée par son éducation blanche pour créer une critique cohérente de la société euro-américaine dans ses écrits.
Other scholars, however, see Zit Kalasha as
d'autres chercheurs, en revanche, considèrent que Zit Kalasha était biculturel, un statut qui lui permettait d'interroger et de critiquer les États-Unis à partir de différents discours, de se déplacer entre les mondes autochtones et blancs et d'affirmer la validité de son héritage autochtone. C'est une bonne façon de la considérer. Il peut y avoir des contradictions dans son travail ici et là, mais dans l'ensemble, elle a fait preuve d'un engagement très cohérent et féroce pour défendre les droits légaux et l'intégrité culturelle des peuples autochtones.
C'est accessible finalement ce qu'elle écrit. Et oui, il y a des relais, mais le grand public ne l'entend pas. Enfin voilà, on n'entend pas à cette période-là. C'est l'histoire du militantisme ou de la résistance amérindienne, en général, on va dire qu'elle s'arrête, en gros, au moment de la résistance armée, etc., etc. Et puis ensuite, on la voit réapparaître, fin des années 1960, début des années 1970, avec l'American Indian Movement. Mais comme si, entre les deux, il n'y avait rien. Alors qu'en fait, justement, il y a ces générations qui vont être dans la résistance beaucoup moins spectaculaire, qui va être de transition, qui va être d'adaptation, de s'emparer des outils du dominant, du droit, de s'emparer de l'écrit. Donc ce militantisme, il est là, quoi. Et il est nécessaire aussi, peut-être après, pour cette nouvelle vague de militantisme qui aura lieu un petit peu plus tard, qui reprendra des formes aussi, d'ailleurs, un petit peu plus spectaculaires, de militantisme plus moderne. Mais c'est un maillon. En fait, Zit Kalasha, c'est qu'elle est représentative de cette génération, c'est un maillon. Et puis c'est une voix quand même assez particulière, c'est une voix féminine qui est dans le politique, quoi. C'est une voix féminine qui est aussi artistique, donc très multi, qui va dans plein de domaines différents, mais qui s'empare vraiment du droit et du politique. C'est assez remarquable et ça annonce aussi toute une génération actuelle de militantes femmes autochtones qui maîtrisent totalement en fait la question juridique, les droits politiques, amérindiens, collectifs, etc.
Well, unfortunately, Zitkala Shah was largely forgotten.
Malheureusement, Zitkala Shah a été largement oublié après sa mort en 1938.
The Sundance Opera debuted in New York City that year.
Le Sundance Opera a fait ses débuts à New York cette année-là, mais William Hansen a refusé de la reconnaître en tant que collaboratrice.
Thankfully, however, she was eventually rediscovered by
heureusement, elle a finalement été redécouverte par plusieurs spécialistes de la littérature amérindienne, suscitant un grand intérêt pour sa vie et ses écrits.
Boston, 5 mars 1901. Cher ami, je ne serai pas le porte-parole d'un autre. Je dirai simplement ce que je pense. Je ne crains aucun homme. Parfois, je pense que je ne crains pas Dieu. Mais je respecte l'esprit conscient qui est en moi, et dont je ne peux rendre compte de l'existence ni de la disparition. Vous avez dit que vous regardiez 10 ou 20 ans dans le futur. Comment pouvez-vous ? Je détesterais apprendre qu'il y a quelque certitude que je vive aussi longtemps. La vie est intensément intéressante, c'est certain. Mais je pense que j'aimerais essayer un autre monde stellaire et ne pas rester trop longtemps au même endroit. Au revoir, Zitkala Shah.
Zitkala Shah, L'envolée de l'oiseau rouge, un documentaire de Lila Bozès réalisé par Clotilde Pivin, avec Aurélie Journet-Duez, Céline Planchou et Ted Lewandowski. Lecture des textes Angelica Tisser, traduction Hélène Cesbron-Lavaux et Faustine Besançon. Merci au comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique, à Hélène Cesbron-Lavaux, Gabriel Vermiot, Faustine Besançon et Philippe Bozès. Prise de son, Florent Layani. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Anaïs Quin. Attachée de production, Sylvia Favre.
C'était Toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quin avec Sylvia Favre. Retrouvez l'émission, ses podcasts et ses bonus sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.